clés secrètes de l'univers. Dominique Desmichel et Michel Galliana Mingo.
Bonjour, vous êtes bien sur Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes. Vous connaissez maintenant probablement très bien notre émission « Les clés secrètes de l'univers », notre feuilleton cosmique diffusé sur l'antenne depuis plusieurs semaines. Surtout si vous avez manqué un épisode, retrouvez-le sur le site de la radio. Nous sommes partis pour un grand voyage dans le temps, dans l'espace, du Big Bang à nos jours, et peut-être avez-vous reconnu notre fameux générique. C'est la musique que le cinéaste Stanley Kubrick a utilisée pour l'ouverture de son film datant de 1968, 2001, l'Odyssée de l'espace, à partir d'un scénario de Arthur C. Clarke. Pour ce parcours, ce long parcours passionnant, nous avons la chance d'avoir un grand éclaireur. Il nous accompagne, il nous explique. C'est Michel Galliana Mingo qui a publié un très bel ouvrage que je vous recommande, « Les clés secrètes de l'univers », publié chez EDP Science. Michel, bonjour.
Bonjour à tous, bonjour Dominique.
Alors la dernière fois, nous étions au milieu, ou peut-être un peu à distance quand même, des trous noirs, ces objets un petit peu fascinants, dont vous nous disiez que leur existence avait été largement récusée par Einstein, qui pourtant avait prédit leur existence, et que depuis on les a observés.
Exactement. Et, bon, Einstein s'est toujours opposé à cette idée jusqu'à sa mort en 1955. Il est entré en conflit ouvert, conflit parfois assez violent et amer avec les scientifiques qui ont commencé à étudier l'idée des trous noirs en utilisant la relativité d'Einstein, des personnes comme Schwarzschild, comme Chandrasekhar, bon, et ces personnes ont dû s'opposer violemment à Einstein parce qu'il refusait l'idée. Ce n'est que dans les années 70, nous le disions la dernière fois, qu'on a observé les premiers trous noirs. En fait, c'était des trous noirs très très gros, très très lointains, et qui déclenchaient des cataclysmes très violents. Et ces cataclysmes apparaissaient comme des lumières brèves dans un espace très très lointain, hein, on parle de milliards d'années-lumière, hein, très très loin, et ces cataclysmes étaient tellement violents que même malgré la distance, on les voyait, et on les voyait sous forme d'étoiles, un peu comme des étoiles très brèves, hein, qui brillaient que quelques minutes. Et on appelle cela des quasars. Et voilà où on en était. Dans les années 70, on a commencé à se rendre compte que les trous noirs existaient vraiment. Aujourd'hui, on en connaît un millier. Donc la preuve est apportée mille fois que les trous noirs existent. On en connaît un millier. Et on les étudie. Alors on les étudie comment ? C'est difficile parce que je vous disais la dernière fois que d'une part ils sont noirs et d'autre part ils sont petits. La taille d'un trou noir comme le Soleil, c'est 6 km, c'est la taille d'un astéroïde. Et donc aller voir dans l'espace lointain des petits objets comme cela, c'est pas évident du tout. Alors, comment étudions les trous noirs ? On ne peut pas les voir. Donc on étudie les cataclysmes qu'ils déclenchent autour d'eux, parce qu'un trou noir, c'est une forme très très dense de matière et de gravitation, et un trou noir, dès qu'il est approché par de la matière, provoque des cataclysmes. Le cataclysme typique, qui est celui des quasars, c'est lorsqu'un trou noir avale une étoile. Là, cela fait un feu d'artifice qui se voit de très très loin. Voilà donc comment on étudie les trous noirs par la lumière qu'ils émettent, ou pour être plus précis, pas eux, mais que leur entourage émet. Pour prendre une image, les cris de douleur de la matière qui se fait absorber dans le trou noir. Voilà ce qu'on observe. Alors maintenant, quel type de trou noir connaissons-nous ? Ça, ce que je veux vous dire est un peu une frustration pour les scientifiques. On ne connaît que trois sortes de trous noirs. En théorie, le trou noir peut avoir toutes les masses possibles, depuis des trous noirs qui sont très petit, la taille d'une particule, jusqu'à des trous noirs qui sont absolument gigantesques. Je vais vous citer le plus grand trou noir que l'on connaisse. C'est un trou noir de 40 milliards de masses solaires. 40 milliards de masses solaires.
Voilà, on a un peu du mal à se rendre compte. Hein.
Lorsque vous pensez que la galaxie contient entre 100 et 150 milliards d'étoiles, et en plus que les étoiles tendent à être plus grandes que le Soleil est une petite étoile, eh bien 40 milliards de masses solaires, ce n'est pas loin de la masse d'une galaxie, hein, contenue dans un seul trou noir. Alors voilà les deux extrêmes, le trou noir qu'on appelle hypermassif d'un côté, qui peut faire des millions ou des milliards de masses solaires, et le trou noir élémentaire qui a la taille d'une particule. Bon, les trous noirs élémentaires, on les observe dans les accélérateurs de particules, on en fabrique. Dans le LHC, ce fameux accélérateur de particules gigantesque qui se trouve à Genève, on fabrique des mini-trous noirs parce qu'on provoque des collisions de particules et dans ces collisions de particules, il apparaît des gerbes de particules de toutes sortes, dont des mini-trous noirs. On en observe aussi dans les rayons cosmiques lorsqu'ils tombent sur Terre. C'est la même chose, le rayon cosmique qui tombe sur Terre, s'il a beaucoup d'énergie, en frappant l'atmosphère, il déclenche des pluies de centaines ou de milliers de particules. Et parmi ces particules, on trouve des mini-mini trous noirs. Alors, je vous dis tout de suite pour vous rassurer, ces petits trous noirs ne peuvent pas prospérer. C'est pour ça qu'il n'y a aucun danger avec les rayons cosmiques ni au CERN. Ces petits
trous
noirs.
Oui, ça avait été une crainte de certains scientifiques, hein. Ou peut-être du grand public à un certain moment. Est-ce que justement, là, dans ce LHC, on n'allait pas créer des petits trous noirs qui allaient ensuite aspirer tout autour toute la matière et au fond comme si la planète entière et peut-être notre galaxie allait se retrouver au cœur de ces trous noirs, hein.
Oui, je me souviens d'articles disant est-ce qu'à Genève, on n'est pas en train de jouer aux apprentis sorciers ?
Oui.
Alors non, maintenant on le sait, parce qu'on en a observé suffisamment, on sait qu'un trou noir s'évapore. S'il est tout petit, il s'évapore extrêmement vite. Extrêmement vite, c'est peut-être du millionième de seconde, hein. Ce sont des temps très très brefs, et ils disparaissent. Un trou noir, par contre, comme celui de 40 milliards de masses solaires dont je vous parle, lui, son évaporation est très très lente. Voilà, donc on possède des exemples de trous noirs minuscules, on en voit dans les laboratoires, et de trous noirs gigantesques. J'ai oublié de vous dire à cet égard qu'on sait maintenant qu'il y a un trou noir de 4 millions d'œufs de masse solaire au centre de notre galaxie. Ouais. Il est resté ignoré longtemps parce qu'il est caché derrière des nuages, il est difficile à observer. Mais on commence maintenant, non pas à le voir bien sûr, mais à voir la façon dont il déforme les ellipses, les orbites des étoiles qui tournent autour de lui. Il y a un certain nombre d'étoiles qui tournent et qui s'approchent d'ailleurs dangereusement de lui et qui ont des orbites extrêmement accélérées parce que la masse du trou noir est gigantesque.
Alors, je ne sais pas si c'est le moment, mais j'avais envie de vous couper, Michel, pour vous dire aussi, on comprend bien qu'il attire autour, mais il y a aussi qui déforme la lumière. Est-ce que c'est le moment d'en parler ou vous nous en parlez la prochaine fois ?
Non, on peut très bien en parler là. On en a déjà, dans un sens, parlé au début, lorsqu'on disait que, en relativité générale, on sait que les masses courbent l'espace-temps. Oui. C'était les creux dont je vous parlais.
On les a dit aussi,
c'était votre question, est-ce que la lumière tombe aussi dans les trous noirs ? Oui, la lumière est sensible à ces courbes et elle suit ces courbes. Ce qui fait que...
Ça veut dire qu'elle ne se propage pas tout droit, on va dire, pour qu'on ait une image, mais quand il y a un peu de lumière qui passe près d'un trou noir, elle est un peu déformée, quoi.
Alors, elle se courbe, c'est ça. Alors plus qu'un peu. Parce qu'elle peut faire plusieurs fois le tour du trou noir avant de venir jusqu'à vous. D'accord. Donc c'est très très déformé à l'approche du trou noir.
D'accord.
C'est la lumière, si vous voulez, tourne autour du trou noir frénétiquement. Une partie tombe dans le trou noir et une autre partie s'échappe dans l'espace. Et c'est cette partie-là que vous voyez. Alors, d'ailleurs, ça m'amène à un thème que je voulais aborder, c'est vous dire qu'on a photographié en 2019, pour la première fois, un trou noir, qui est un trou noir galactique, un grand. Hein. Ce trou noir a été photographié pour la première fois. Je vous engage à taper sur Google « photographie trou noir » et vous verrez dans le noir une couronne orangée. Une couronne orangée, c'est la photo qu'on a prise. En fait, le trou noir, on ne le voit pas. Il est au centre de la couronne et il est noir. Donc on ne le voit pas. Et quelle est cette couronne? Eh bien, c'est exactement ce que je vous disais pour répondre à votre question, Dominique. La lumière, tout autour du trou noir, tourne parce qu'elle est piégée dans la cavité du trou noir. Elle tourne, parfois elle fait plusieurs fois le tour du trou noir. Elle tourne et une partie de cette lumière tombe à l'intérieur et disparaît à tout jamais. Et une autre partie de la lumière est éjectée dans l'espace. Et c'est cela qu'on a photographié.
Ouais.
Alors, c'est pour ça que la photo montre une couronne. Cette couronne, ce n'est pas le trou noir lui-même, c'est la lumière qui tourne autour du trou noir avant de s'échapper ou de tomber dedans.
Ouais.
Alors ça, c'était une grande découverte tout de même, hein, en 1919.
Et alors, ces trous noirs sont générateurs de l'éjection de très grandes particules aussi, de grandes quantités de particules.
Oui, parce que c'est le principe dont je parlais à l'instant pour la lumière est vrai pour toutes les particules de matière et autres. La matière est torturée lorsqu'elle approche trop près du trou noir. La matière est torturée, c'est-à-dire qu'elle se met à tourner très vite. S'il s'agit d'un corps comme un astre, il est déchiré par les forces de gravitation du trou noir. Ce qu'on appelle les forces de marée, il est déchiré et déchiqueté, une partie tombe dans le trou noir, une partie est éjectée, tout cela est extrêmement violent. On observe d'ailleurs un effet classique des trous noirs, c'est que lorsqu'ils absorbent de la matière, ils en éjectent aussi par les pôles, ils éjectent par leur pôle sud et par leur pôle nord, ils éjectent des jets de gaz, de matière, à une vitesse qui est proche de la vitesse de la lumière. Et ces jets se voient de très loin. C'est donc une des manifestations les plus patentes de l'existence des trous noirs. Imaginez une boule, et par l'axe de la boule, vous voyez partir une espèce de jet de lumière à une vitesse qui est pratiquement celle de la lumière, pas loin.
Michel.
Ce sont donc des effets et dramatiques.
Michel, je vous coupe. Nous arrivons au bout de notre quart d'heure. On sent bien là, hein, que la genèse ou l'enfantement de l'univers que nous connaissons ne se fait pas que dans la douceur, mais aussi avec des quantités d'énergie absolument phénoménales. Michel, je vous remercie aussi pour toutes ces explications. J'espère que nous arrivons à vous suivre. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.
The sky was blue and high above. The moon was new and so was love. This eager heart of mine was singing. Lover, where can you be? You came at last, love had its day. That day is past, you've gone away. Eager heart of mine singing, lover, come back to me. I remember every little thing you used to do. I'm so lonely. Every road I walk along.